Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est moins cher dans le marché couvert. Allez, allez, allez.
Allez, trois pizzas gratuites, la madame dans le melon. Du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h, midi 30. Le meilleur de la table des bons vivants. Laurent Bariotte.
Bien le bonjour les amis, nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi, hein, vous le savez, pour retrouver les meilleurs moments de la table des bons vivants. Alors entre les balades au marché, les rencontres avec nos agriculteurs, les conseils de nos experts de la fourchette et nos invités, croyez-moi, c'est un grand mezzé qu'on vous propose. Au rayon fruits, on vous emmène tâter la pêche dans un instant. Ce fruit à noyau se plaît dans le sud, bien sûr, mais la pêche de Montreuil en Île-de-France fait de la résistance. Et vous allez entendre, ça vaut le goût. C'est la saison des barbecues. Alors nous avions reçu le chef argentin Francis Malman, un grand Manitou de la braise. Alors il va nous aider à bien choisir les bons morceaux et à maîtriser la flamme surtout. Et puis pour finir cette belle tablée, nous réécouterons les coups de fourchette de l'ami Jean-Pierre Pernaud. Voilà, vous savez tout, ou presque. Pour commencer, un petit tour au marché et on garde la pêche sur Europe 1.
Pendant les vacances, je suis très heureuse car je viens ici. Je vais prendre trois salades et puis de la pastèque.
Pour le moment, vous avez les légumes d'été, c'est-à-dire encore des aubergines, des tomates et des poivrons.
Je suis touriste. Quand je viens ici, je recherche plus les producteurs que les grossistes, en fait, produits que je peux retrouver sur la région parisienne. Donc, je vais chercher le producteur. Des petites tomates à 3,90€ pour des tomates plein champ, ce qui est vraiment un bon rapport qualité-prix.
Mon neveu est maraîcher. Vous avez 6 tomates à lui. Une tomate comme ça, vous la coupez, c'est un beefsteak. Avec du basilic, de la mozzarella, de un peu d'huile d'olive, vous vous régalez.
Quel bonheur d'entendre tous ces accents sur les marchés. Mais voilà pourquoi on aime commencer cette émission chaque samedi sur un marché. Elle a raison, la dame. Une belle tomate, je pense qu'elle fait allusion à une cœur de bœuf, par exemple, coupée en une belle tranche épaisse. C'est un steak végétal, ça. Hein.
Oui, totalement. C'est vrai que c'est goûteux, c'est charnu. Quand on croque dedans, il y a de la mâche. Voilà, c'est ça qui est bon.
On aime mâcher, on aime mastiquer. Hein. Il n'y a pas que du tout mou dans la vie, Olivier
Pouls. On a des dents et il faut s'en servir.
Exactement.
Et c'est vrai que d'ailleurs, c'est indispensable à notre digestion aussi. Mastiquer, c'est la première de la digestion.
L'été, c'est vraiment la saison pour se reconnecter avec les plaisirs et les saveurs du marché. Ça peut faire partie des bonnes résolutions qu'on va suivre ensuite à la rentrée. Allons sur le marché et prenons cette habitude au moins une fois par semaine.
Oui, je pense que c'est indispensable si on veut une bonne alimentation, une alimentation saine et équilibrée et une alimentation de saison. C'est quand même sur les marchés qu'on a le plus de chances de les retrouver. Puis ce qui est beau, c'est quand j'ai entendu l'accent, quand on a face à nous le producteur qui nous parle de son produit, quoi de plus beau ? C'est lui qui le connaît, c'est lui qui va vous guider pour savoir comment le cuisiner.
Allez tous au marché. Veloutée et juteuse à soie, la pêche se fait toute douce sur les marchés, justement. Alors on vous emmène à la rencontre d'anciennes variétés. Toute une histoire, vous entendrez. A tout de suite sur Europe 1. Et comme disait l'ancien slogan, on garde la pêche.
Pulpeux comme la pêche. 11h30 sur Europe 1, Laurent Bariotte vous accueille à la table des bons vivants.
La pêche est bonne, hein, les amis. Juteuse et parfumée, elle nous accompagne depuis le mois de juillet jusqu'au mois de septembre grâce aux différentes variétés. Tiens, Olivier Pouls et Yves Candebord, racontez-moi votre beau souvenir de pêche. Une pêche qui vous a marqué comme ça, enfant ou adulte.
Alors moi, elle m'a marqué à vie, Laurent. C'est le premier dessert que j'ai appris à faire dans mon restaurant d'apprentissage, les Pyrénées à Pau. C'était la fameuse pêche Melba.
Ah bah oui.
Une belle pêche roussane de Monin. C'est une variété de pêche exceptionnelle qu'on cueille pendant un mois de l'année au mois d'août, qu'on cueille vraiment très mûre, très très confite sur l'arbre. Elle était juste pochée dans un sirop vanillé, une belle glace vanille, un écrasé de framboise et juste des amandes grillées dessus.
C'est gourmand ça. C'est
un dessert inventé par Auguste Escoffier, je crois, en 1894.
Oui, c'est vieux. Hein.
Pour la soprano Nelly Melba, qui l'avait subjuguée lors d'un concert à Londres.
C'est ça, et il a fait la même chose avec la poire Belle-Hélène pour l'opéra d'Offenbach.
Oui, tout à fait. Et surtout, je dirais, c'était un coup de génie. Auguste Escoffier était sans doute le cuisinier le plus marketing qui existait. Il savait mettre en valeur ses clients en mettant des noms à sa carte.
Il personnalisait sa cuisine.
Il mettait à l'honneur ses clients.
Olivier Pouls, alors la pêche, pas trop pour vous alors ?
Cuite uniquement, donc plutôt en compote ou en tarte. La tarte aux pêches, je trouve ça délicieux. On n'en mange pas longtemps dans l'année parce que c'est vrai que les pêches ont une saison optimum qui est relativement courte. Une bonne tarte aux pêches, Ça, c'est efficace.
Là, on a des pêches qui sont juste épluchées, comme ça, qu'on déguste, qui sont juteuses, qui sont parfumées. C'est vraiment le fruit du moment, ça. C'est le fruit de l'été. On est le 10 août, on est en plein dedans.
Oui, mais c'est surtout c'est le fruit du moment, c'est le fruit de l'été. Et surtout, c'est des fruits qui sont en maturité. Et quand on achète un fruit en maturité, quel que soit le fruit, on n'a pratiquement pas besoin de le cuisiner. Je dirais, il est déjà confit naturellement. Là, il suffit d'y rajouter une belle glace vanille. Vous y mettez un peu d'amande et un petit coulis de fruits rouges et on n'est pas loin de ma pêche Melba de mon enfance.
Et comme de nombreux fruits et légumes, la pêche est devenue populaire à Versailles, Olivier Pouls.
Oui, et Louis XIV, paraît-il, en était dingue. Il en avait fait planter plus de 30 variétés, c'est-à-dire qu'il aimait ça, la pêche.
La pêche.
Parmi lesquelles, évidemment, la belle de Chevreuse, la belle de Vitry ou encore le téton de Vénus.
Ah, le téton de Vénus, admirable. Et bien justement, on vous emmène caresser, si je puis dire, le téton de Vénus.
Je vous suis.
Direction les jardins-écoles de Montreux. En Seine-Saint-Denis, Julien Amat a rencontré Dominique Laencina, qui est jardinière et animatrice pédagogique dans ce fief de la pêche en Ile-de-France. Nous sommes à côté de Paris et tout ça grâce à une culture atypique sur les murs. Écoutez bien toutes ces anciennes variétés qui sont encore parmi nous.
Donc ça, c'est un très ancien mur. Si vous regardez bien, vous voyez tous les impacts. Tout ça, c'est les clous à palisser. Les branches sont collées au mur. On dit que c'est Henri IV qui, adorant ce fruit, a ramené des pêchers sur Paris quand il a été couronné. Faire pousser des pêchers dans notre région, c'est un peu risqué. Dans ce mur, il y a un mélange de terre et de pierre. Et la terre a une inertie thermique. Ce qui fait que, même quand le soleil est caché, la terre se refroidit plus lentement que l'air. Le mur reste un peu plus longtemps chaud. En tournant comme ça. C'est très sensuel la pêche, la belle bosse, la belle impériale, la grosse mignonne. Sur la tétante de Vénus, le bout va pointer. Cette pointe comme ça, c'est très typique. La plupart des pêches ont une forme très, très ronde. On a toujours cette fente au milieu qui fait penser à des fesses féminines, hein, très charnues. Il y a tout ce duvet sur la pêche qui agace un peu la bouche. À l'époque, on mangeait les fruits avec la peau. Les dames montreuilloises brossaient les pêches. On a dans le musée des brosses. On a même une machine à brosser les pêches. Elle est très juteuse. Elle est un peu pelucheuse. Et le goût, elle a un goût qui vient dès l'attaque. Mais on sent qu'elle est très fleurie.
Ah, elle en parle bien. Merci Dominique Laencina, jardinière, animatrice pédagogique au Jardin-École de Montreuil en Seine-Saint-Denis. Si vous êtes parisien de résidence ou si vous êtes parisien de passage, ça vaut vraiment le détour. Allez dans cet endroit. Et moi, j'ai vu un truc incroyable dans cet endroit. Ils conservent des pochoirs Yves Candebord qui permettaient de marquer et de personnaliser les pêches. Hein, racontez-nous, vous connaissez
c'est
ça.
C'est très original et je trouve que c'est quelque part un peu, c'est de l'art sur le fruit. Ils faisaient des petits pochoirs qui collaient carrément sur les fruits quand les fruits étaient à maturité, quand ils n'étaient pas encore ramassés, bien sûr, qu'ils étaient encore accrochés à l'arbre. Et avec la réverbération du soleil, le dessin du pochoir restait imprimé sur le fruit. Alors ça permettait soit de faire un petit dessin ou carrément de mettre des armoiries.
Ou vos initiales.
Oui,
ou
Yves Candebord, par Yves exemple. Moi, je connais
YC, YC sur la pêche. Non,
je trouve que c'est un côté très joli. Je trouve que c'est un côté très, très agréable.
Puis c'est la classe. Hein. Franchement, la classe, vous amenez votre corbeille de pêche avec vos initiales dessus, c'est la classe.
Non, merci à nos amis de Montreuil, vraiment, de préserver tous ces savoir-faire. Une dernière recette de pêche, tiens, pour terminer, on a parlé de la pêche Melba, Yves Candebord. Voilà. Après, on peut la déguster aussi en version salée, la pêche.
On peut la déguster aussi en version salée, dans une salade. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est un peu de la cuire. Voilà. Et là, par contre, on ne l'épluche pas, on la laisse sentir. On va la poser tout simplement dans un plat au four avec un trait d'huile d'olive et on va la laisser tout doucement la rôtir pendant 10-15 minutes. On la ressort, on la laisse refroidir un peu, on la coupe et on la met dans une salade accompagnée avec des haricots verts. Et en ce moment, si vous avez encore des amandes fraîches, c'est vraiment un mariage parfait.
J'aime bien faire aussi un tian abricot-pêche taillé en fin quartier, tout simplement, dans un plat à gratin qui va au four, bien compressé les unes contre les autres, les tranches, un filet d'huile d'olive et un petit peu de miel par-dessus, et vous laissez ça 40 minutes confire à 180 degrés. Ça fait un tian de fruits en dessert que vous pourrez déguster avec une boule de glace. Allez, ne bougez pas, on se retrouve dans un instant à la table des bons vivants. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Barbecue, plancha, four à bois, cuisson au-dessus des flammes, à la braise. La cuisine du feu est multiple et pour la maîtriser, j'ai invité un grand chef argentin qui cuisine à la flamme du côté d'Aix-en-Provence, au château Lacoste, c'est Francis Malman. Bonjour Francis Malman.
Ah, bonjour.
On est ravis de vous recevoir. Alors, on vous a vu dans une série magnifique sur Netflix qui s'appelle Chef's Table, on vous a vu maîtriser cet art du feu. Vous êtes né à Buenos Aires, en Argentine, vous avez grandi en Patagonie, où l'art du feu est dans vos gènes depuis toujours.
Oui.
Depuis toujours, vous cuisinez à la flamme, quoi.
Oui, à la Patagonie, la maison où je vivais avec tous mes frères. Et on a vu le cheminée, la cuisine de la cuisine. Ça avait été en feu aussi, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dans ma sang.
C'est dans vos gènes. Vous avez ouvert votre premier restaurant à 19 ans et vous êtes venu en France pour vous initier à la gastronomie française.
Oui.
Vous êtes passé chez Le Doyen, Alain Sandrins, Alain Chapelle. Qu'est-ce que vous avez appris justement au contact de tous ces grands chefs ?
Bon, ça avait été une époque incroyable parce que je travaillais avec quelques cuisiniers classiques, quelques cuisiniers de la nouvelle cuisine. Ça avait été l'année 80 quand j'arrivais, je restais quelques années. À Paris, un peu partout en France, et je travaillais aussi avec les Trois Gros, avec Raymond Oliver. Avec,
au Grand Véfour.
Oui, avec Thuyer aussi. Et c'est une belle maison. Oui.
Vous parlez de cuisine du feu plutôt que de barbecue et de plancha. Ça veut dire qu'il y a plusieurs façons de manier la flamme, selon vous. Quand on vous écoute, vous dites qu'il y a 7 feux différents. Expliquez-nous un peu ça.
On a le barbecue, on a la plancha, on a le four en bois. On cuisine beaucoup dans les cendres. Ça, c'est délicieux pour les légumes et aussi pour le pain. On fait directement dans les cendres le pain. Et après ça, on fait aussi en trou avec des choses très, très chaudes.
Vous mettez de la braise dans un trou, c'est ça, hein ?
Oui, c'est ça.
Et vous mettez une pièce entière de viande dedans ?
Oui, avec des pierres qu'il faut chauffer pour 4-5 heures. Et ça, c'est délicieux. C'est quelque chose qu'on fait à la Patagonie depuis 13 000 ans.
Alors, on va continuer de parler grillade et rôti avec vous, Francis Malman, le chef qui transmet la cuisine du feu telle Prométhée, les règles d'un bon barbecue, d'une belle plancha. Et puis, vous allez voir des cuissons iconoclastes avec Francis Malman. A tout de suite sur Europe 1.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Vous êtes peut-être sur la route des vacances, vous allez probablement faire des barbecues. Alors encore une fois, respectez bien les règles et les arrêtés municipaux, pas de barbecue sauvage. Nous sommes avec Francis Malman, justement, le chef qui cuisine au feu depuis 20 ans. Le barbecue, c'est vrai qu'on a beaucoup changé les règles du barbecue avec le charbon de bois tout fait, avec des barbecues de plus en plus de compétitions. C'est quoi pour vous, Francis Malman, le vrai barbecue, la façon de vraiment réussir son barbecue, qu'il soit primitif ou évolutif ?
Moi, je pense que le premier ingrédient, c'est la patience. Alors, il ne faut pas être pressé pour faire le barbecue. Il faut prendre le temps et il ne faut pas courir. Il faut avoir de bons bois, une bois dur.
Du chêne, charme, du hêtre.
Et c'est ce qu'on fait. On a une feu qui est la mer et après, on fait le barbecue à côté.
Ah, une source.
Ah, une source, oui, exactement. C'est très important, ça.
Mais c'est ça ce que vous dites, c'est vrai, c'est la patience, le premier ingrédient, parce que souvent, on démarre le barbecue beaucoup trop tôt et il est seulement bien en température quand on a fini le barbecue, en fait, souvent,
oui,
quand on est amateur.
Arrive. Oui, et il ne faut pas courir, il faut avoir tout là. La mise en place doit être là, parce que c'est un peu comme le risotto. Il ne faut pas quitter le grill, il faut être là. Tous les temps, parce que ça change tous les temps. Et moi, pour moi, les choses plus importantes, c'est tourner les choses uniquement une fois. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça.
On ne fait pas de tchac-tchac sans arrêt.
Il faut respecter le premier contact de la viande, le poisson, ou le légume sur le grill et le tourner quand on pense qu'il est prêt.
Et une grille pas trop prête des braises non plus, assez haute.
Ah, ça dépend de la taille de la viande ou du poisson. Il y a quelques fois que je fais des choses très rapidement sur le charbon. Et quelques fois que je fais beaucoup de choses pendues pendant 10 heures.
On vous voit effectivement mettre des pièces entières, des poulets pendues au-dessus des braises.
Ouais.
Donc c'est une cuisson fumée là.
C'est fumé, mais c'est aussi, par exemple, le poulet arrive à être très craquant aussi. Mais il faut les monter, les descendre, ça dépend du vent. Le pire ennemi du grill, c'est les vents. Parce que les vents changent tout.
Les légumes aussi se plaisent bien au barbecue.
Ah oui, et dans les cendres aussi.
La pomme de terre, c'est un de vos tubercules préférés, ça, et vous adorez la mettre dans la cendre. Hein.
Oui, dans les cendres, c'est très bon. Et les cendres blancs, c'est très important. Pas uniquement le braise, mais les cendres, parce que les cendres donnent beaucoup de goût, et il fait en couche qui garde la chaleur.
Alors, on a l'image justement du feu qui sert à griller la viande, mais avant tout, ça vient de l'homo erectus, Olivier Pouls. Hein, c'est pas récent, cette histoire de cuisine au feu.
Au nom des bien vieux ancêtres à nous, 400 000 ans, vous vous rendez compte. Mais c'est une évolution majeure, évidemment, dans la préhistoire. Hein. C'est à partir du moment où l'homme commence à cuire ses aliments, ça va tout changer, parce que ça va lui permettre de digérer des aliments qu'il ne pouvait pas manger cru avant, donc de changer son alimentation. Ça va avoir une répercussion très importante sur sa manière de vivre. Et puis, il y avait déjà plusieurs modes de cuisson à l'époque, hein, du temps de ces préhistoriques. Ils aimaient eux aussi la pierrade, par exemple, sont parmi les premiers modes de cuisson. Ils chauffaient des pierres.
La pierrade, c'est inventé par l'homme préhistorique. C'est drôle,
c'est pas uniquement en Savoie. C'était un mode de cuisson très répandu. Donc, ils chauffaient les pierres. Et une fois que les pierres étaient chaudes, ils posaient la viande ou les ingrédients directement dessus. Puis, ils ont rôti aussi, parce qu'on a retrouvé des traces de broches qui avaient plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'années, et même la cuisson à l'étouffée, ils savaient la faire à l'époque, en enrobant par exemple des aliments dans de la panse de ruminant, vous savez, ça donne lieu par exemple qu'on continue à le faire, le fameux haggis écossais.
Ben oui.
Exactement, ou alors ils pouvaient cuire également sous la braise, déjà ils faisaient ça. Et donc voilà, ce sont les ancêtres de nos barbecues, c'est à eux qu'on doit tout ça, mais c'est vrai que ça a tout changé.
Mais quand on lit le sociologue Claude Lévi-Strauss, il dit que le feu marque le passage de l'existence animale à l'existence humaine. Ce que vous faites, Francis Malman, c'est que vous revenez aux fondamentaux de la cuisine. Au feu, tout simplement.
Oui, j'ai rien inventé, j'ai embrassé les choses du passé, voilà.
Alors, vous avez une recette qui est incroyable, que vous servez d'ailleurs au château Lacoste à Puy-Sainte-Réparade en Provence, c'est cette entrecôte. Parlez-nous de votre entrecôte cuite à la braise, à la flamme, fumée, comment doit-on dire?
C'est pendu premièrement, et 12 heures, et après on le coupe et on le fait dans la plancha.
Vous laissez l'entrecôte donc fumer au-dessus
12 heures.
12 heures au-dessus de la flamme, au-dessus de la braise, au-dessus de quoi?
Deux choses.
Les deux choses.
Oui, très haut.
Très haut. Et ensuite, vous la passez directement sur le grill.
Non, à la plancha ou dans le grill. Ça dépend du client, oui.
Alors, on a quelque chose de très tendre, résultat.
C'est très, très tendre, c'est délicieux.
C'est vrai que c'est assez extraordinaire de voir cette maîtrise du feu. Le feu, c'est quand même l'essence même de notre cuisine. On a tellement de jeunes chefs aujourd'hui qui ne savent plus maîtriser la flamme, qui ne savent plus rôtir. Mais Dieu sait si rôtir, c'est un fondamental de notre cuisine.
Oui, attention quand même, parce qu'on parle beaucoup de flamme et de feu, mais surtout au barbecue, il ne faut pas qu'il y ait la flamme, surtout. Il ne faut pas qu'elle y soit.
Eh bien, on va en parler justement, c'est notre prochaine partie. Quelles sont les règles à bien respecter pour la cuisine au barbecue et à la cuisine à la flamme? On en parle avec Francis Malman, parce que c'est vrai que ça peut être toxique, cette flamme trop près des aliments. Ne bougez pas, on vous donne la réponse juste après ça. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Du bœuf de Galice, de l'agneau du Luberon, des pommes de terre, Anna à la cendre. On en fait des choses sur la braise et sous la cendre avec notre invité, le chef Francis Malman, le grand maître du feu. Alors vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, Francis Malman. Et on vous voit de temps en temps effectivement mettre des grilles géantes ou des plaques géantes et cuire comme ça avec le feu et la flamme en dessous. Et parfois on voit effectivement que la flamme lèche les ingrédients aussi. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Parce qu'on sait qu'il ne faut pas non plus trop brûler les ingrédients avec la flamme.
Non, la plancha c'est bon pour brûler, mais la flamme, il faut faire attention. On utilise la flamme, mais toujours des côtés et loin.
C'est-à-dire, jamais par exemple, au contact direct.
Non, par exemple, l'agneau entier, on le fait pendant 7 heures à côté du feu, à la flamme. C'est délicieux. Mais tous les fumées les chaleurs plus brutales montent.
Dans votre restaurant Château Lacoste en Provence, vous servez un dessert qui est une salade de fruits frais et brûlée, avec un ananas à la braise. Alors quand vous dites brûler, c'est brûler comment alors? Parce qu'on sait que justement que le brûler,
à la plancha.
À la plancha.
On la brûle un peu à la plancha. Tout le légume et les fruits qui ont en dessus, par exemple la pêche brûlée, un peu brûlée, qui reste encore froid dans le milieu, c'est délicieux. Et on le serve avec un peu de crème fraîche et aussi d'un liqueur d'amande.
Alors, on a parlé ici avec le nutritionniste Afid Alol de l'importance de mariner aussi les viandes, les poissons et les légumes et les fruits pour éviter que ça s'oxyde à la cuisson. Vous pratiquez l'art de la marinade aussi?
Non, moi, j'aime pas beaucoup la marinade. Je crois dans le contraste. J'aime bien cuire les choses naturellement et après les donner de goût et pour avoir un contraste.
Sachant que la marinade, en fait, souvent, elle sert pas grand-chose parce qu'il faudrait mariner pendant des heures et des heures, voire deux ou trois jours. Oui. Si c'est pour mariner 30 minutes avant, ça ne sert strictement à rien. La marinade n'a pas le temps d'imprégner vraiment les produits.
Il y a le fait aussi que le fait de, quand c'est mariné, quand vous le mettez sur le barbecue, c'est là que ça peut déclencher la flamme.
Oui, ah oui, voilà. S'il y a de la matière grasse dans la marinade, effectivement.
Ça, l'huile, elle dégouline, elle tombe dans le feu.
Je pense que Laurent, il faut aussi dire que quand les ingrédients sont, surtout les viandes, quand elles sont un peu brûlées, ça peut être cancérigène, il faut vraiment ne pas les consommer à ce moment-là.
Un incontournable, Francis Malman, tiens, avant de se quitter, pour nos auditeurs, un morceau à cuisiner, tiens, ce week-end au barbecue à la plancha, qu'est-ce que vous leur conseillez et quel type de cuisson?
Moi, j'aime beaucoup une côte de bœuf avec l'os et faire les lentement, uniquement avec du sel. Moi, j'utilise du sel des mers, bien sûr, d'un côté. Et par exemple, si je veux le cuire et 12 minutes, je fais 8 minutes de le premier côté et après 4 de l'autre.
À la plancha ou sur la grille du barbecue, ça?
Non, non, dans les grilles. Et après, bien sûr, le chimichurri, que c'est la
petite sauce.
C'est la sauce nationale, que c'est des oregano, du persil, de l'ail, un peu de sel et d'huile d'olive.
C'est bien, c'est ce qu'il nous faut pour l'été. Merci Francis Malman d'être venu à la table des bons vivants et on vous retrouve donc à ce magnifique château Lacoste à Puy-Sainte-Réparade en Provence. Bon retour en Provence et merci d'être venu à la table des bons vivants, Francis Malman.
Merci, merci à vous, merci.
Europe 1, 11h30. Laurent Mariotte.
Ça y est, c'est l'heure de retrouver le camarade Jean-Luc Petit-Renaud. Alors, vous le savez, son truc à lui, c'est l'escapade. Il nous donne rendez-vous dans une belle brasserie parisienne pour se souvenir, écoutez bien, de ses amis chanteurs et poètes, de beaux compagnons de la fourchette, comme il dit. Bonjour, bonjour, l'ami Jean-Luc.
Bonjour, les jolis camarades. Eh bien, écoutez, je suis à la Closerie des Lilas. C'est un lieu, comme on sait, où on vient en même temps manger et croiser les plus beaux artistes. Eh bien, j'avais envie de parler de quelques amis comme ça que j'ai eus, qui étaient des gens de la fourchette. Alors, j'aurais commencé cette balade par Saint-Rémy de Provence, histoire de dire bonjour à mon Charles Aznavour, qui avait ses habitudes au bistrot de Marie, au centre de la ville de Saint-Rémy de Provence, et où il venait toujours goûter sa chèche. Chouïa, c'est une sorte d'aubergine à l'ail, aux tomates et tout, que l'on sert glacé à l'huile d'olive. Il fallait toujours qu'il passe en cuisine pour la goûter. Il me faisait goûter aussi en me disant « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» Alors après, ben, je remonterai toujours un peu, mais de manière joyeuse. J'irai dans l'île de Saint-Louis, saluer la mémoire du camarade Georges Moustaki, qui était un homme absolument délicieux. Je me souviens d'un tournage dans son appartement et lui est passé en cuisine pour moi et il m'a fait aussi un plat grec d'aubergines farcies à sa manière et avec cette voix absolument sublime, la voix de Milord finalement. Je continuerai mon chemin, mais peut-être en partant, j'emmènerai le camarade Moustaki avec moi en Ardèche. On y serait allé en moto sur sa BMW blanche et puis on aurait retrouvé Jean Ferrat, à mon avis, qui serait en train de pêcher la petite truite Fario qu'il adorait cuisiner et puis on aurait chanté Que la montagne est belle, bien entendu. Comme quoi finalement, ces jolis poètes n'ont pas besoin de fleurs ou de couronnes, ils ont envie d'avoir toujours de belles assiettes ouvertes vers le joli ciel bleu de l'été.
Mais comme c'est bien dit, on y était, une belle balade ça.
C'est une belle balade.
C'est joli de convoquer ses amis comme ça. Souvenons-nous de nos amis et de ces grands chanteurs qui nous font du bien et c'est magnifique quand on est chanteur.
Réécoutons-les en déjeunant.
C'est immortel, on peut les réécouter avec une belle table. Il est à la tête du journal télévisé de 13h depuis 30 ans. Il est rare de l'entendre à la radio. Jean-Pierre Pernaut est notre invité dans un instant. On est ravis de le recevoir. A tout de suite sur Europe 1.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Merci d'être là les amis, restez bien avec nous au frais, écoutez-nous, nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi et c'est l'heure d'accueillir notre invité. Originaire d'Amiens, il découvre le monde des actualités en faisant un stage au Courrier Picard. Après un passage à l'ORTF, il entre à TF1 où il succède à Yves Mourouzi. Son idée de parler de l'actualité de nos régions grâce à des correspondants locaux est vite un succès. Il est à la tête du rendez-vous télévisé le plus regardé de la journée en France. Ambassadeur des régions, il est l'homme qui a fait d'un journal de proximité, un journal national, c'est Jean-Pierre Pernaut, notre invité. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Laurent, bonjour. Je suis ravi d'être avec vous.
Ah ben on est ravis de vous recevoir. Plus de 5 millions de téléspectateurs chaque midi.
Oui.
Sur TF1.
Oui, il y en a eu davantage avant l'arrivée de la TNT, avant tout ça. Mais bon, on se maintient bien, il y a plus de 40% de part d'audience, on est content. Et puis surtout, vous le disiez Laurent, le travail dans les régions est essentiel pour être au plus près des gens. De leurs préoccupations, mais aussi de leur grand bonheur. Il y a des choses merveilleuses dans ce pays.
On s'est moqué de vous au début, hein, avec pas mal. Hein, vous avez pris pas mal. Et justement, on voit que tout le monde y vient, justement, à l'actualité des régions, parce qu'on veut se recentrer et se reconnecter avec les territoires ruraux.
Oui, avec la vie des vrais gens, tout simplement. Exactement. Alors, il y a des tas de choses à montrer. Il y a des passions à montrer. Ça, c'est la partie magazine du journal. où on joue sur les traditions, on montre des gens qui ont des savoir-faire absolument extraordinaires, qui ont la passion au bout des doigts et on arrive à le montrer dans de merveilleux reportages. Et puis l'actualité vue par les régions, et c'est pour ça qu'on avait vu la crise des Gilets jaunes arriver un an avant tout le monde.
Une question que tout le monde se pose, tiens. À quelle heure il mange Jean-Pierre Pernaut? Il mange avant ou après le journal?
Avant, on ne peut pas. Avant, on est en plein préparatif. Bah oui. Le journal se prépare entre 7h30 et 13h35. Il continue à bouger pendant le journal. Et après le journal, je déjeune souvent avec mon équipe dans soit un petit resto à côté de TF1, soit à la cantine de TF1,
oui,
on mange bien.
On vous voit au self avec votre plateau repas, ben oui. Absolument. Nous partageons le même amour pour les marchés, Jean-Pierre. On a vu le succès de votre saison 2 du plus beau marché de France. C'est une super idée, ça aussi.
Alors ça m'est venu l'année dernière, parce que c'est vrai que quand on veut tester l'opinion, quand on veut l'opinion de gens sur un sujet ou un autre, on va souvent demander des gens sur un marché. Ce que font les hommes politiques en campagne électorale, d'ailleurs. Il ferait bien d'y aller toute l'année et tout le temps. Nous, on y va tout le temps, et c'est là qu'on arrive à savoir si les gens vont bien, s'ils vont mal, s'ils sont heureux, s'il y a de bons produits, si ça sent bon, quels sont leurs accents. C'est sur un marché qu'on sent les pays et qu'on sent les gens. Et à force d'y aller, je me suis dit, bon, allez, on va essayer d'organiser un petit concours. Et puis la première saison a été formidable, gagnée par Sanary-sur-Mer, qui est un joli marché au bord de la mer avec les pointus et tout, c'est joli. Et cette année, c'est Montbrison qui a gagné. Je ne connaissais pas Montbrison. Et ils ont une fourme que j'ai découvert là-bas qui est délicieuse.
Alors, quel est votre goût de la semaine, justement?
La fourme de Montbrison.
Eh ben voilà, bien sûr.
C'est comme c'est un peu moins gras que la fourme d'Ambert. C'est ce fromage un peu en. Avec du roquefort à l'intérieur.
Oui, c'est bien le fromage persillé qui était ensemencé.
Fromage persillé. Mais il est pas gras du tout et je l'aime beaucoup. Il est doux, il est magnifique.
Une belle fourme de Montbrison, par exemple, avec des légumes, ça marche très très bien, ça. Ouais, on peut se faire plaisir sur des légumes crus aussi. Bah, avec
c'est un vrai assaisonnement, ouais. Ça remplace l'assaisonnement.
Exactement. Alors,
complètement, c'est délicieux.
Jean-Pierre Pernaut, de plus en plus de gens font leur jus eux-mêmes. Est-ce que vous êtes mis au jus, vous?
Non.
Non? Eh ben alors nous, on s'y est mis pour vous, figurez-vous.
Alors, dans le studio, les auditeurs ne le voient pas, mais il y a des couleurs merveilleuses partout.
Eh bien, ce sont les jus d'Yves Condebord, parce qu'il nous a fait trois petites merveilles que vous allez entendre et déguster avec nous. On va se remettre effectivement tous au jus. Yves Condebord, on sait qu'il y a deux manières de les faire, à la centrifugeuse ou alors à l'extracteur de jus. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que vous nous conseillez?
Eh bien, écoutez, Laurent, j'ai testé, j'ai utilisé les deux appareils. Alors, on va commencer par l'extracteur. Et on va commencer à aller par le négatif, parce qu'il y a un positif et un négatif, oui, pour les deux machines. Et c'est vrai que le négatif de l'extracteur, voilà, c'est que ça demande un peu de temps. Voilà, parce que c'est quand même un peu plus long à faire qu'à la centrifugeuse. Mais après, le vrai positif de l'extracteur de jus, en fait, quand ça broie et ça presse les légumes ou les fruits très délicatement avec une vis sans fin, ce qui fait qu'on sépare la pulpe et le jus avec beaucoup de souplesse. C'est une vitesse qui est vraiment très, très, très lente.
Et on conserve les principes actifs, les nutriments et les vitamines des fruits. Hein.
Tout à fait, on conserve tous les nutriments et toutes les vitamines du fruit. C'est vrai qu'on a vraiment un jus très vitaminé et aussi très important, il n'y a pas d'oxydation.
Et la centrifugeuse alors?
Alors, la centrifugeuse c'est différent, c'est quelque chose qui est beaucoup plus violent. Voilà, parce qu'étant donné que c'est par la force centrifuge, donc ça tourne à une vitesse, une rotation très importante. Donc on sépare, ça fait la même chose, hein. On sépare donc la pulpe du jus et on a un jus qui coule, qui est très agréable en bouche, mais par contre qui n'a aucun intérêt nutritionnel.
Donc s'il faut choisir?
Alors s'il faut choisir, je dirais l'homme pressé va dire
centrifugeuse, oui.
Mais l'homme qui est délicat, l'homme qui veut prendre plus de temps et qui a envie aussi d'avoir, voilà, justement, être en bonne santé, avoir des bonnes vitamines, avoir des bons nutriments, je dirais choisissez l'extracteur de jus, c'est une vraie différence.
Alors avant de déguster les beaux jus que vous avez faits pour nous, quelles sont les règles, tiens, pour nos auditeurs s'ils veulent faire un jus à la maison, à la centrifugeuse ou à l'extracteur?
Pour moi, il y a trois règles principales. La première, c'est pas plus de trois saveurs.
Ah oui.
Avec peut-être un petit condiment pour assaisonner, mais trois saveurs. Après, bien sûr, il y a la règle, comme pour la cuisine, de la saison.
Bien sûr, produit de saison.
Et après, la vraie règle qui est pertinente et qui marche à tous les coups, c'est marier des produits de la même couleur.
Ah oui, ah,
et
c'est
ça
pour
marche
ça
tout le temps.
Qu'on a des belles couleurs intenses. Alors là, j'en ai un joli vert justement.
Ah, le vert est des potes, hein.
Il est beau votre jus vert.
On en a fait trois. On en a fait donc le vert, c'est concombre, fenouil, Granny Smith.
Ah, c'est bon, ça désaltère ça.
Avec une petite pointe de citron vert là pour redonner un peu de peps.
Ah, c'est super ça.
On le sent le citron vert, on sent bien. Un petit poil, il y en a quand même. Ça se sent bien.
Ça relève et
c'est péchu.
Et c'est pas trop sucré, Jean-Pierre Pernaut. Je sais pas ce que vous en pensez.
C'est délicieux.
Hein, on n'est pas dans le jus de fruits industriel où on rajoute du sucre. Ah, non.
Là, le deuxième, Laurent, l'orange. Donc là, c'est un grand classique en fin de compte. C'est carotte, orange et gingembre. Là, c'est aussi, vous allez voir, c'est très tonique.
Vous y êtes allé sur le gingembre, là.
Hein. Le matin, quand on se réveille, ça nous donne la force de ça. Ça éveille.
C'est antiseptique, en plus, le gingembre.
Et le troisième.
C'est mon préféré, le troisième.
Mais parce qu'il est. Ouais, si, moi aussi, je préfère. Je l'aime bien parce qu'on le consomme moins souvent. Il est plus original.
Oh, c'est bon,
c'est
ça.
C'est tomate, poivron et la pêche.
Ah oui.
Ah, la pêche.
Et c'est relevé avec une pointe de piment d'Espelette.
Ah, bah le fameux.
La petite touche.
C'est pour ça qu'on le préfère. On aime bien le Pays Basque.
Le Pays Basque, où il fait beau d'ailleurs, bah ce week-end, où ils sont un peu plus au frais que le reste de la France d'ailleurs.
Mais je peux vous assurer, Laurent, c'est des jus qui sont très faciles à faire. J'ai envie de vous dire, n'achetez pas des jus préparés. Faites-les vous-même. Il y a un résultat qui est totalement différent.
Je peux vous poser une question, Yves. Là, il y a des mélanges. On peut essayer soi-même des mélanges improbables comme. Pêche et concombre, je ne sais pas.
Après, j'ai envie de vous dire, c'est chacun à son goût. Et justement, le fait de faire les jus soi-même, on peut les personnaliser à son goût. Et c'est tout l'intérêt.
Mais la même couleur, c'est vrai que c'est intéressant de mettre les fruits et les légumes de la même couleur et de les marier ensemble. C'est une bonne idée. On va retenir ça pour ce week-end parce que je pense que de nombreux auditeurs vont se mettre au jus ce week-end. Ne bougez pas. Bientôt midi, on se retrouve dans un instant avec Jean-Pierre Pernaut qui nous fait le plaisir d'être à la table des bons vivants. Vous aimez les abricots, Jean-Pierre Pernaut ?
J'adore, ils sont délicieux cette année.
Vous aimez la chantilly, Jean-Pierre Pernaut ?
J'adore.
Eh bien, on va vous faire des abricots à la chantilly. Ce sera juste
Allons-y.
Après les titres. Là, tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est moins cher dans le marché couvert. Allez,
3 pizzas gratuits, la madame dans le melon, du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h, midi 30, le meilleur de la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Bon samedi midi, les amis, et merci d'être avec nous. Hein, et soyez les bienvenus, tiens, si vous nous rejoignez. Depuis 11h, nous avons la pêche et nous l'avons même cuisinée en dessert. C'est vrai, hein, en tian avec des abricots. Et puis Melba avec Yves Candebord, beau disciple de l'Auguste Escoffier. Francis Malman a aussi ravivé la flamme de la cuisine au barbecue. Auteur de la grille. Puissance des braises, morceaux à privilégier. Il y a des règles à respecter pour être un as du barbecue. Et vous les retrouverez bien entendu sur europe1.fr. Allez, on continue à retrouver le présentateur préféré des Français. Jean-Pierre Pernaut s'est mis à table avec nous juste avant le journal. Tiens, à propos, à quelle heure mange-t-il ? Avant ou après le 13h ? Ça, c'est une question importante. Quelles sont ses spécialités régionales préférées ? Jean-Pierre Pernaut s'est confié sur ses coups de fourchette autour de beaux abricots rôtis à la chantilly.
Oh, une bonne tête de veau, oui. Mais bon, je suis désolé, je suis picard. Donc,
Alors, vous avez en face de vous Yves Candebord, l'homme qui a modernisé justement la tête de veau. Tiens, avec les fortes chaleurs, un carpaccio tête de veau.
Oui, tout à fait. Mais surtout, vous n'allez pas vous excuser parce que vous aimez la tête de veau.
J'adore.
Au contraire, c'est magnifique.
Mais oui.
c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance, voilà, avec les techniques de travail qu'on a mis en place, de moderniser aussi un peu ces plats qui étaient au départ quand même des plats divers, c'était quand même des plats chaleureux. Donc, on fait en ce moment un carpaccio de tête de veau. C'est-à-dire qu'on cuit la tête de veau de façon classique, roulée. On la coupe à la machine à jambon, mais vraiment très, très finement. On la dépose sur une assiette. On la voile juste un peu à la température ambiante pour lui donner un peu de moelleux. Et dessus, on remet les garnitures de la gribiche classique, c'est-à-dire les petits oignons, les cornichons, les œufs hachés, du persil, trait d'huile d'olive.
J'en rêve.
On y est.
Et on a quelque chose voilà, qui ça fait, c'est une tête de veau d'été.
D'accord.
On a fait une tête de veau d'hiver, nous. Je vous emmenais à l'assiette de David Reichweber, justement, dans le 14e à Paris.
C'est un plat qui me rappelle plein de saveurs de ma jeunesse, quoi. Mais c'était le plat du dimanche, la tête de veau ou la langue de bœuf. Surtout en plat d'hiver, bien évidemment. Et en plat d'été, comme ça, en carpaccio, c'est une bonne idée.
Vous êtes un bec sucré, Jean-Pierre Pernaut ?
Non, j'aime tout. Hein.
Vous aimez tout. Hein. Alors, justement, on vous a préparé un dessert fruité et léger, des abricots rôtis à la chantilly. La saison des abricots vient de démarrer. Alors, il y a eu des petits problèmes avec les intempéries dans la Drôme et dans le Var. Et on va aller du côté de Chantilly pour faire une vraie chantilly, une vraie crème chantilly, parce qu'elle est née là-bas, Yves Candebord, la chantilly.
Alors, je vais vous dire la vérité, Laurent.
Oui.
Vous venez de me l'apprendre.
Mais non.
Mais bêtement, je ne le savais pas.
C'est pas vrai.
Non, je ne le savais pas.
Vous qui collectionnez les livres de cuisine, qui avez une bibliothèque de livres anciens, vous ne le saviez pas ?
Je viens de le découvrir, mais j'en reviens pas.
Ben oui. Si, elle était inventée là-bas. Alors, il y a un débat entre Vatel, le fameux cuisinier qui l'aurait inventé, et puis il y a une autre histoire aussi. Hein.
Oui, le pauvre Vatel qui s'est suicidé parce qu'il y avait eu un problème quand il recevait le roi. Alors, on dit que c'est à cause du poisson, on dit que c'est à cause de la viande, et maintenant on dit que c'est à cause de la chantilly. Et ça, j'y crois pas trop quand même, Laurent.
Hein. Non, non, non.
Et quand on regarde les vieux livres de cuisine, la première fois que la chantilly est mentionnée, c'est en 1784. Voilà. Et ça vient d'une duchesse de Russie qui en fait l'éloge durant un repas.
Et ben voilà, elle a aimé la crème chantilly. Alors, pour devenir le roi de la chantilly, Julien Lucas, le chef de la table du Connétable à Chantilly, nous donne tous ses trucs et on va l'accompagner avec des abricots rôtis. C'était au micro de Marion Sauveur.
On va commencer par les abricots. On essaye au mieux de travailler avec les légumes et les fruits de la région. Donc là, on a les tout premiers et ça vient de Sacy-le-Grand. On va les couper donc en deux. On va saupoudrer d'un sucre bergeoise qui va apporter un côté caramélisé.
Un peu de gourmandise.
Là, je mets donc une petite noisette de beurre et je vais les cuire à 170 degrés. Entre 8 et 10 minutes, il faut qu'ils soient cuits mais qu'ils restent fermes. Et bien, on va faire la chantilly. Donc là, mon cul de poule qui sort du frigo, je l'ai mis dans un saladier avec un peu de glace en dessous pour que tout soit bien froid. Je vais y incorporer la gousse de vanille et la crème.
Bien froide, parce qu'elle sort du frigo. Hein.
Exactement. Et je vais commencer à fouetter tranquillement. Alors, vous voyez, je fais pas de grands gestes. Hein. J'y vais tout doucement et là, on incorpore généreusement de l'air dedans. Chaque coup de fouet, je commence à voir le fond de mon cul de poule. Donc là, je l'ajoute le sucre, je l'ajoute en une seule fois. Et j'incorpore également ma mascarpone. Parce que là, maintenant, il faut lui donner du corps.
C'est ça qui va faire qu'elle va se tenir. Hein.
Ah oui. Je lève le fouet. On appelle ça bec d'oiseau. C'est-à-dire que ma chantilly est terminée. Tout de suite au frigo. Je récupère les abricots. Il faut les laisser refroidir. C'est bien meilleur quand c'est froid. Hein. Donc là, j'ai récupéré la moitié des abricots. Je vais les mixer maintenant. Je vais incorporer ma verveine. Donc là, je continue à bien mixer. Et donc, maintenant, on va passer au dressage. Le cuisinier, lui, il fait des quenelles.
Oh, c'est joli.
Fin juin, on a envie de quelque chose de frais, donc...
Eh ben, on va goûter.
On a l'acidité de l'abricot, le côté doux derrière avec la chantilly.
Ah oui, qu'est-ce que c'est bon, la chantilly.
Faut toujours en faire un peu plus.
Faut toujours qu'il y ait du rêve, évidemment. C'est un joli contraste, effectivement. Yves Courdebornes.
Et c'est vrai, qu'est-ce que c'est bon, la chantilly, Laurent.
Alors, mention spéciale à Julien Hamad de la rédaction. Il vient de faire ça juste avant l'émission. Des abricots rôtis avec Mohamed ici à la cantine. Et puis, il s'est mis à foisonner lui-même sa chantilly. Alors, une crème liquide entière bien froide, comme on l'a dit. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre Pernaud?
Je pense que l'association chantilly-abricot, j'avais jamais essayé. C'est délicieux.
Et avec ces fortes chaleurs, ça passe tout seul en plus.
Ah oui, hein, ça passe. C'est frais aussi.
Oui, parce mais... que c'est l'acidité de l'abricot justement qui vient en contraste avec la rondeur de la chantilly. Ouais. Et la chantilly, quand même, c'est gourmand, mais c'est léger.
Exactement. C'est riche, c'est aérien. Léger, c'est aérien. Qu'est-ce qu'on boit avec ça, Yves Courdebornes?
Ah ben moi, j'irai sur les côtes de l'Ain, j'irai boire un petit cerdon. C'est le vin pétillant du Bugey qui est magnifique et qui est légèrement fruité, qui est rosé, et ça se marie à merveille avec l'acidité de l'abricot.
Anne-Laure Flamme.
Moi, j'aurais une petite bière à recommander, une bière un peu d'été, justement, aux notes de pêche blanche, avec un houblon bien relevé, épicé, qui ferait écho aux abricots. C'est la Clement's Summer Witch chez Deck & Donu. Moi, j'aime beaucoup.
Elle adore la bière, elle en parle très bien, Anne-Laure Flamme. Bière ou vin, Jean-Pierre Pernaud?
Les deux, plutôt le vin l'hiver, plutôt la bière l'été. La bière, ça rafraîchit aussi bien.
C'est vrai que ça rafraîchit bien, hein, avec modération.
Il y a de bonnes bières. Il y a de plus en plus de brasseries partout, de petites brasseries qui font des petites bières formidables.
Ne bougez pas, on revient tout de suite avec Jean-Pierre Pernaud pour répondre aux questions que vous avez posées sur le répondeur des bons vivants au 39-21. Restez bien au frais, nous sommes là jusqu'à midi et demi. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Bienvenue à la table des bons vivants, nous sommes en bonne compagnie. Jean-Pierre Pernaud est avec nous ce samedi midi. Jean-Pierre, qu'est-ce que vous faites le samedi après une semaine intense à la tête du journal télévisé?
J'essaie de me reposer, j'accompagne mon fils au karting. Mon fils est né dans ses courses de voiture parce qu'on est passionné de sport auto. Moi j'ai arrêté d'en faire depuis 2 ans. Et puis avant j'avais un potager, j'ai arrêté, c'est trop compliqué. Je préfère acheter une botte de radis, ça coûte moins cher que de s'en occuper soi-même. Et puis voilà, de temps en temps, je fais des barbecues l'été, je fais des pot-au-feu l'hiver.
On m'a dit que vous assuriez en grillade. Hein. Il y a deux recettes qu'il maîtrise, Jean-Pierre, c'est le pot-au-feu et les grillades l'été.
Voilà, c'est les deux choses que je sais faire à peu près.
Alors c'est quoi?
Même
c'est...
les omelettes, j'ai du mal, mais j'y arrive quand même.
C'est côte de bœuf, c'est chipolata,
c'est n'importe quoi. C'est côte de bœuf, c'est des côtes d'agneau, c'est des poissons, c'est n'importe quoi. J'aime bien les grillades, j'aime bien être dehors surtout.
Vous avez préfacé le livre « Ces recettes qui font la France » de Frédéric Zigerman, c'est en 2015 chez Flammarion. C'est quoi votre spécialité régionale préférée du moment? Allez, du moment, parce que je sais que c'est compliqué de choisir.
La mienne, bon, je sais pas, en Picardie, on a plein de choses. On a des ficelles picardes, on a du pâté de canard, on a des macarons d'Amiens. Bonjour, Madame Macron.
Mais oui, c'est la famille Trogneux.
Mais c'est la famille Trogneux, dont ses parents font de délicieux macarons. Non, j'aime bien ma région, la ficelle picarde, j'adore en manger, mais je ne sais pas comment on l'a fait.
Ah bon, on va faire une spéciale ficelle picarde, hein, Yves Courdebornes.
Moi, je veux bien.
Rencontre du Sud-Ouest et de la Picardie.
Ah, oui. Et puis du gibier aussi, c'est une région de chasse où il y a beaucoup d'excellents gibiers.
Agriculture, alimentation, produits de saison, vous le savez, chaque samedi, vous avez la parole au 39-21. Voici la première question.
Bonjour, Rodolphe de Clermont-Ferrand. J'ai une question concernant les fruits et légumes de saison. Peut-on donner n'importe quel fruit ou légume à un enfant d'environ 1 an? Y en a-t-il de plus conseillés que d'autres et d'autres déconseillés? Merci à la table des bons vivants.
Alors Rodolphe, eh bien moi je dirais que oui, comme ça j'ai presque envie de vous dire,
il faut
leur faire goûter tout à nos petits enfants.
Oui, je pense que c'est l'éducation des goûts qui commence là, mais c'est vrai qu'après il faut leur proposer ça soit de façon écrasée, soit de façon cuite ou mixée. Quoi.
Très mixée, voilà, très lisse. Très mixée, quoi, c'est surtout... On sait que la carotte fait un carton auprès des enfants parce qu'elle a ce petit goût sucré.
Hein, ouais, mais même quand on parlait de la courgette, une belle petite purée de courgette à ce côté un peu voilà noisette, c'est toujours très agréable. Et après sur les fruits, ben une fraise bien écrasée, une banane bien écrasée. Au contraire, je pense justement qu'il faut privilégier tous ces produits frais, ces produits cuisinés, plutôt que les petits pots industriels qui sont chargés
en pesticides.
En pesticides.
Ah,
pas chargés
tout. Alors, il y a des bio qui sont plutôt clean, ça va.
Il y a une législation sur ça.
Hein. Jules Laurent, le bio, il faut quand même qu'ils disent, regardez, il y a toujours un E quelque chose. C'est...
Ah, oui, non, mais il y a une législation sur les petits pots quand même, parce que même les industriels qui font des petits pots ont des parcelles spécialisées, justement, où normalement, on s'engage à ne pas traiter. Quoi.
Prendre une casserole, couper une carotte dedans, la faire bouillir dans de l'eau, après la mixer, c'est quand même
Nous sommes d'accord, et c'est pas compliqué quand même.
On a court de temps, ça existe. Mais moi, j'ajouterais que pour les épices aussi, faut pas hésiter à les acclimater tout doucement, à mettre des petites touches comme ça de curry ou de gingembre moulu, mais vraiment par petites touches pour les acclimater à l'assaisonnement. Ça marchait bien avec mon fils.
Alors il faut néanmoins éviter avant un an révolu les kiwis, les fraises et les fruits exotiques et les fruits rouges parce qu'il y a peut-être des risques allergènes chez certains enfants. Donc on dit que ça en général c'est après un an qu'il faut leur faire manger ce genre de produit. Et pareil pour le céleri, je sais pas pourquoi, parce que c'est peut-être un petit peu costaud comme goût et que ça peut effrayer nos enfants. Mais je comprends pas ça.
Oui, non, mais après j'ai envie de vous dire faut le faire goûter, puis s'ils n'en veulent pas, il faut passer à autre chose, quoi. Faut pas forcer. Et les enfants, après, c'est eux qui vont faire leur tri naturellement.
Et ils ne se laissent jamais mourir de faim.
Non.
Une autre question au 39-21.
Oui, bonjour, c'est Violette. J'habite à Paris, mais très bientôt, je vais partir en vacances avec ma famille et nous adorons, comme tout le monde, faire des barbecues. Donc, en fait, j'avais une petite question par rapport à la plancha. Parce que j'ai entendu dire que c'était plus sain de faire des barbecues avec une plancha au-dessus. Est-ce que c'est vrai? Quels sont les avantages d'en avoir une? Je me demandais si vous pouviez répondre à ma question.
Vous avez, Violette, le roi du barbecue à notre table, c'est Jean-Pierre Pernaut.
Non, pas le roi.
Il va vous répondre. Vous êtes plancha ou barbecue d'ailleurs, vous?
Plutôt barbecue. Mais je pense que la plancha doit être meilleure.
Yves Candebordes.
Je ne sais pas si le mot meilleur est juste. Ah, ouais. C'est totalement différent. Quoi. Le goût est totalement différent. C'est vrai que le barbecue, quand on maîtrise la braise, parce que c'est la délicatesse du barbecue, c'est savoir maîtriser la braise, justement pour pas qu'il y ait la flamme, parce que la flamme, quand elle passe sur le produit, c'est pas bon pour la santé.
C'est pas bon, non, voilà. C'est pas bon.
Mais le goût du barbecue, c'est quand même une petite merveille quand c'est bien présenté. Ouais. Par contre, c'est vrai que la plancha, c'est très facile. Voilà, en fin de compte, c'est une plaque qu'on allume, voilà, en mettant pratiquement pas de corps gras. On peut rôtir dessus viande, poisson ou légumes.
Il y a moins de risques. Voilà, c'est vrai que c'est plus sain parce qu'il y a moins de risques de brûler les aliments et on peut faire toutes sortes de choses. On peut faire des poissons
on peut
à la
tout
plancha.
Faire, tout faire, hein, des poissons, légumes. Des légumes. Mais ça n'a pas le même goût.
Ça a une meilleure saveur à la plancha ou au barbecue?
Alors moi, personnellement, je préfère le barbecue. Parce que cette saveur boisée, il suffit qu'au barbecue, on rajoute un peu de thym dedans ou du romarin dans la braise qui va encore amener. Voilà.
Et puis il y a le petit goût grillé et fumé du barbecue.
Et renseignez-vous surtout sur les matériaux avec lesquels sont fabriqués les planchas. C'est pas évident de trouver des planchas ultra clean et dépourvus de tout matériau nocif. Donc soyez vigilants là-dessus.
Et puis sachez aussi qu'aujourd'hui, il y a des barbecues qui se transforment en planchas, qui font les deux en un. Donc ça, c'est bien pratique. On peut faire griller sa viande, par exemple, sur le bord et sur la grille du barbecue. Et une plancha au-dessus des braises qui, elle, va permettre de cuire les légumes sans les brûler, par exemple. Ça existe.
C'est vrai que la plancha, je vais vous dire, même si vous avez une petite terrasse, c'est quand même pratique de l'avoir.
Oui.
Jean-Pierre Pernaut est notre invité et nous allons le découvrir dans la dernière partie de l'autre côté de la fourchette pour savoir quel type de bon vivant il est. A tout de suite.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Les salades, les jus, les gazpachos et les abricots à la chantilly pour Jean-Pierre Pernaut. De la fraîcheur avant toute chose. Et vous retrouverez la recette d'ailleurs des abricots à la chantilly sur notre site europe1.fr. Tout se passe bien Jean-Pierre?
Tout se passe bien. C'est la première fois que j'ai une émission de radio où on déjeune merveilleusement bien.
Bon bah écoutez, vous êtes le bienvenu. Vous avez votre rond de serviette. Hein. Vous revenez quand vous voulez.
Oui, je vais revenir demain.
Vous êtes à la tête du journal de 13h de TF1 depuis plus de 30 ans. À l'heure où nous sommes de plus en plus sensibilisés à l'écologie, quel rôle doivent jouer nos campagnes et le monde rural, selon vous?
Elles ne doivent pas le jouer, elles le jouent depuis longtemps, elles l'ont toujours joué. Et c'est pas... l'écologie, elle vient pas des villes, l'écologie, elle vient des campagnes. Ce sont les paysans qui entretiennent notre pays, tous les pays d'ailleurs, et qui parfois l'ont pollué, eux-mêmes. Eux-mêmes se rendent compte qu'ils doivent arrêter de le polluer, mais ils l'entretiennent, c'est déjà merveilleux. Et puis ils font des choses magnifiques partout. Il y a de plus en plus de gens qui font du bio maintenant, mais il y en a toujours eu. Le bio, à un moment, c'était triste. Puis quand on a commencé à faire, je sais pas, du pinard bio, du pot-au-feu bio, du cassoulet bio, ça a commencé à devenir festif. Ça, c'est pas parce que c'est bio c'est que ça vrai. Doit pas être festif.
Bah évidemment. Est-ce que vous vous intéressez au vin, Jean-Pierre Pernaut ?
Oui, pour le boire.
Alors, c'est l'heure des 2 minutes du vin d'Olivier Pouls habituellement, mais comme il est au frais dans sa cave, justement, eh bien, ce sont les 2 minutes cocktail d'Anne-Laure Femme et Anne-Laure. Ben voilà, on entend le bruit des glaçons. Vous allez nous donner quelques idées, tiens, pour changer des mojitos et autres spritz.
Oui, je vous sens un peu là, Laurent, de
oui,
ces cocktails un peu trop
toujours
à la mode.
Oui.
On va être un peu précurseur. On va enchaîner sur le Negroni. C'est le pendant naturel du spritz et du ginto pour le côté gin. Et ça veut dire que nos palais, désormais, je m'en réjouis, sont très ouverts à l'amertume.
Ah, j'adore ça, moi, l'amertume.
Et vous allez me dire, dedans, il y a quoi ? Du gin, de la mer, mais aussi du vermouth. Et c'est ce dont je veux vous parler. C'est un apéritif à base de vin blanc et de plantes. Et
oui.
Vous en avez du blanc et du rouge, c'est pas du tout les raisins utilisés, attention, qui font la différence de couleur, c'est l'ajout de caramel. Et le niveau d'alcool est entre 15 et 18 degrés. Donc on est sur du raisonnable, j'ai envie de dire.
Alors le vermouth, c'est ça, c'est un vin blanc parfumé avec des plantes. Hein.
Voilà, et on l'utilise notamment dans un cocktail, je crois que vous adorez, c'est l'Americano.
Ah, Americano, j'adore ça aussi, oui, bien sûr, vous me connaissez bien.
Le dry martini cher à l'espion le plus célèbre du cinéma, James Bond, qui adore boire. Alors tout part donc du vermouth, c'est cette bouteille rouge qui traîne peut-être dans votre bar depuis une éternité et qui prend la poussière. Pour la petite histoire, c'est Antonio Benedetto Carpano, un Italien de Turin, qui est le premier à avoir consigné la recette par écrit en 1786 à la base du vin blanc, du bois d'armoise pour l'amertume.
Ah oui ?
Et armoise en allemand, ça se dit comment ? Vermouth.
Ah,
voilà,
bah voilà.
Donc vous savez tout.
Tout vient de là.
Et il y avait déjà des plantes, des épices et du sucre.
C'est un petit peu rétro en fait, c'est un petit peu vintage comme apéro, mais je trouve ça sympa moi.
Eh oui, parce qu'on est hyper à la mode à boire du vermouth comme au 19e siècle, en France et en Espagne, parmi les familles chics et nobles, on adorait ça, sec ou avec des glaçons.
C'est vrai que le bruit des glaçons, ça pourrait faire penser au bruit des cloches des chèvres dans les pâturages ou des vaches.
C'est vrai ce que vous disiez, c'est la bouteille qu'on a quelque part poussiéreuse et qu'on n'ouvre pas.
Exactement.
J'en ai une à la maison, c'est vrai, mais là, en goûtant, j'ai envie de l'ouvrir de tout à l'heure. Tiens.
Ah, vous aimez cette saveur, l'amertume, comme
mais
ça,
oui, c'est délicieux.
Ça rafraîchit, ah, oui. Ça ouvre le palais, Yves Candebord,
ouais,
l'amertume.
Tout à fait, moi, ça me fait penser de suite à la Suze. Hein.
Voilà. Oui, c'est de la gentiane.
Est-ce qu'on
oui.
peut le faire avec la Suze ?
Mais oui, tout à fait. On peut prendre un tonique, c'est ce que j'ai fait. Un tonique, c'est une eau pétillante avec des épices et du sucre et qu'on mélange avec des spiritueux comme ça. La Suze, du vermouth, ça marche. Là, je vous ai servi du Select, qui est un super vermouth italien de Venise. Vous en avez aussi un qui s'appelle Del Professor, qui vient du Piémont et que j'adore et qui est vendu sur whisky.fr. La maison du whisky. N'hésitez pas à investir dans le vermouth. Il y a des choses merveilleuses et ça vient du monde entier.
Qu'est-ce qu'on boit là, Anne-Laure Femme ?
Alors, moi j'ai mis du vermouth Select et des glaçons, autant que vous voulez, pour rafraîchir le verre. Attention, c'est important. Et du tonique.
Et la couleur rouge, c'est le vermouth qui la donne.
Voilà, tout à fait. Ça, vraiment, ça ressemble au spritz de loin, en moins orangé et en plus rouge.
Et en moins sucré aussi.
Voilà. Hein ? Une dernière chose, on peut maintenant tout à fait s'initier à l'univers du vermouth dans les Vermouteria. Il y en a une qui vient d'ouvrir à Paris en avril, qui s'appelle Cachette avec un quart de l'arbre sec à Paris. Plus de 60 vermouths du monde entier, c'est génial. Allez-y.
Eh bien, merci beaucoup Anne-Laure Femme et on retrouvera les références sur europe1.fr. C'est vrai que l'amertume, en ces temps caniculaires, ça fait du bien. Jean-Pierre Pernaut, c'est l'heure de vous découvrir de l'autre côté de la fourchette. Vous êtes prêt ?
Oui, allons-y.
C'est parti. Quel est le goût de votre enfance, Jean-Pierre ?
La première idée qui me vient, c'est quoi ? C'est les clémentines. Pourquoi ? Parce que les clémentines, pour moi, étaient synonymes de Noël. On n'avait pas de clémentines avant Noël, quand je suis né, dans les années 50. Et il y avait des clémentines au pied du sapin. Et pour moi, la clémentine était synonyme de Noël. Et j'ai ce goût qui me revient. Et puis celui de la langue de bœuf que me préparait ma mère merveilleusement bien.
Votre plus beau repas, dans le sens inoubliable ?
Oh, il y en a eu plein de repas beaux, mais le plus beau repas de ma vie, c'est celui de mon mariage.
Qu'est-ce qu'on a mangé au mariage de Jean-Pierre
Pernaut ? Je ne m'en souviens plus, mais ma femme était magnifique.
C'est beau, quelle belle réponse ! Quel est l'ingrédient que vous n'aimez pas retrouver en cuisine, Jean-Pierre Pernaut ?
Je crois qu'il n'y en a aucun. Je crois qu'il n'y en a aucun, parce que j'aime bien goûter tout, que ce soit en France ou à l'étranger. Il n'y a pas d'ingrédient que je n'aime pas.
Quel plat emmèneriez-vous sur une île déserte ?
Alors, quelques côtes de bœuf pour faire une grillade avec une boîte d'allumettes. Je ne sais pas, du poisson pour faire une grillade. Quoi d'autre ?
Un gâteau basque, on m'a dit que vous aimiez.
Un gâteau basque, ah oui. C'est un gâteau basque, si je peux partir avec un gâteau basque. Alors, le gâteau basque avec ou sans confiture ?
Sans.
Ah oui, c'est le classique.
Classique.
Quel est votre mot préféré en cuisine, Jean-Pierre ?
C'est bon, c'est bon.
Qui sont les invités de votre dîner idéal ?
Mon dîner idéal, c'est ma famille, c'est ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, voilà, c'est la famille.
Votre adresse secrète, tiens ?
J'ai pas d'adresse secrète. J'ai des petits restos où j'aime bien aller, notamment puisqu'on parle du Pays Basque à Saint-Jean-de-Luz, parce que j'ai des copains, parce qu'on chante au bar. Je connais un petit resto qui s'appelle l'Alcalde, qui est pas loin de la place Louis XIV. Il y en a un autre près de la Nivelle, c'est ça qui s'appelle l'Aranzaleac, je crois.
Ramoucho.
J'adore cet endroit.
Une auberge de poissons magnifique.
C'est une auberge de poissons magnifique avec des grillades de viande aussi qui sont très bonnes et des petites nappes à carreaux. J'adorais cet endroit quand j'allais souvent au Pays Basque.
Et le mot de la fin, F-A-I-M, Jean-Pierre Pernaut.
À table.
Eh bien, nous y sommes. On y est. Merci Jean-Pierre Pernaut. Alors si vous êtes en vacances, n'hésitez pas à tester les adresses du présentateur préféré des Français, Aranzaleac à Cibourg. Hein. Et puis je rajouterai même, tiens, dans la région, moi, l'hôtel Arcé, dans l'arrière-pays à Saint-Étienne-de-Baïgorry. On pêche une truite devant vous et on la cuisine au bleu, c'est formidable ça. C'est l'été, donc gardez la pêche et puis l'abricot. Et puis tiens, cuisinez-les ensemble, hein, en crumble ou en tian. Et à propos de la pêche, n'hésitez pas à glisser quelques quartiers comme ça dans une salade de haricots verts. Elle va apporter une belle note fruitée avec une vraie sensation de fraîcheur. C'est l'été les amis, faites le marché à la cuisine. Vous retrouverez les recettes bien entendu hein, sur europe1.fr. Et rendez-vous samedi prochain dès 11h avec Manu Payet. Bon vivant, pas tenté, vous entendrez. Bon week-end sur Europe 1.